Belle fin de semaine de l'Action de grâce. Et nous voulons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour l'abondance qu'on a. Vrai? Amen? Pour la santé. Il y a des gens qui ont besoin de prière et qui ne se sentent pas bien. On veut prier pour vous, si c'est votre cas. Et certainement, on veut remercier le Seigneur pour sa grâce et de savoir qu'il est près de nous et puis toujours là. Moi, lorsqu'on m'a parlé du Seigneur la première fois, je vous ai déjà raconté un peu mon témoignage, comment je suis venu à l'Évangile. J'étais sur la route et j'étais représentant sur la route, vendeur, dans le couvre-plancher. La première fois, c'était un de mes clients qui m'avait parlé de l'Évangile. Et puis, lorsqu'il m'a parlé de l'Évangile, la première fois, c'était pas là, et j'avais refusé l'Évangile lorsqu'on m'a présenté Jésus-Christ pour la première fois. On m'a présenté Jésus-Christ une deuxième fois, une couple d'années plus tard. Je voulais rien savoir. Et une troisième fois, par un de mes clients dans la région de l'Outaouais. Et cette fois-là, Dieu a touché mon cœur et j'ai dit oui à Jésus-Christ. J'ai ouvert mon cœur. Et là, est venu le temps d'aller à l'église. Alors, l'individu a fait 120 kilomètres, c'est peut-être même plus, de l'Outaouais. Pour venir ici pour m'aider à m'intégrer dans une église dans la région. Et moi, tu sais, quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, on dirait que tout est beau, tout le monde est parfait. Et honnêtement, moi, j'étais sous l'impression que vous étiez tous parfaits, les chrétiens, quand je suis venu à Jésus-Christ. Ah, j'avais cette impression-là, on dirait que tout le monde était beau, tout le monde était gentil. Les chrétiens ont particulièrement sont reconnus pour leur sourire. Hein? Vous souriez beaucoup, on sourit, on est des gens heureux. Et ça n'a pas pris de temps pour réaliser que nous ne sommes pas parfaits. Je m'inclus là-dedans, ma femme vous dirait ça ouvertement ce matin. On n'est pas parfaits. D'ailleurs, Sylvie l'a bien souligné dans sa prière ce matin. On est humain, puis on n'est pas parfaits. Et ça va arriver des fois même que, et c'est très triste, lorsqu'une personne va venir au Seigneur Jésus-Christ pour un petit bout de temps, toucher avec l'Évangile, et va même s'intégrer dans l'Église, va servir le Seigneur, va prendre quelques ministères dans l'Église, et tu les vois grandir dans la foi, servir, s'impliquer, tout ça. Puis tout d'un coup, ils quittent l'Église pendant des années. Et ça, c'est vraiment triste, parce qu'on s'attache, c'est une famille. Hein? On s'aime les uns les autres, on aime se voir grandir dans le Seigneur, et c'est toujours difficile lorsque tu vois quelqu'un qui t'est cher, que tu as appris à connaître et que tu as passé du temps avec elle, de s'éloigner du Seigneur. C'est arrivé avec un couple, justement, qui, le mari, cet homme, a accepté le Seigneur ici à l'église de Longueuil, il y a plusieurs années, et dans les années 80. Et puis, s'est converti, a grandi dans le Seigneur, a commencé à faire s'impliquer dans toutes sortes de ministères dans l'église, et a déménagé, s'est marié, s'est impliqué dans l'église locale où il était dans sa région. Commençait à s'impliquer à l'école du dimanche avec sa femme, un couple, un beau couple, et commençait à s'impliquer là dans une des classes, enseignait à l'école du dimanche. Jusqu'au jour, ils ont fait ça quelques années, et jusqu'au jour, à un moment donné, il y a eu un accrochage avec quelqu'un. Et je pense que c'était dû au matériel de l'école du dimanche qu'il prenait, tout ça, je ne suis pas trop sûr ce qui s'est passé. Et là il y a eu un froid assez important, que le couple s'est senti assez blessé, qu'à ce moment-là, ça se sentait vraiment déchirant dedans, et tout ça, et au point qu'ils ont abandonné leur ministère, et ils ont abandonné l'Église. Et des années ont passé, là, on parle d'années, là, et une année a passé, deux années a passé, trois années a passé, quatre années a passé, cinq années a passé, et rendu à la cinquième année, quelque chose est arrivé. Dieu est venu gratter un petit peu là, dans son cœur, ça le fatiguait, puis bang, un dimanche matin, il s'est levé. Comme ça, après cinq ans qu'elle n'est plus à l'église. Il se lève, puis il dit, c'est dimanche matin, là. Il dit, qu'est-ce que je fais ici? Elle dit, je devrais aller à l'église. Après cinq ans, là, il s'habille, il se prépare, et puis tout ça, il parle à sa femme ne voulait rien savoir. Alors, il se lève, il s'habille, il s'en vient, puis il va dans une autre église. Puis là, sa femme était vraiment triste de ça, puis elle n'était pas contente du tout. Elle était même fâchée, elle avait la colère, parce qu'elle avait été offensée, elle a été blessée dans l'expérience qu'elle avait connue au sein des Grâces du Dimanche, tout ça. Elle voulait absolument rien savoir. Et ce gars-là s'est intégré dans une autre église, tranquillement, grandi, et il priait pour sa femme. dans l'église. Et qu'est-ce qui arrive quand tu commences à prier pour du monde? Hey, Dieu agit, hein? Dieu agit. Puis là, il a commencé à travailler le cœur, puis ça. Et ça s'annonçait pas tellement bien parce qu'un dimanche où il s'est levé pour venir à l'église, ça faisait quelques semaines qu'il faisait ça. Un dimanche, elle lève, puis elle dit, bon, c'est ça. Tu t'en vas dans ta secte encore. Ça s'annonçait vraiment pas bien. Mais il a continué à prier, puis l'église a prié pour sa femme. Et tranquillement, sa femme, un matin, s'est levée, elle aussi, puis elle dit, qu'est-ce que je fais ici? Et Dieu a touché son cœur, elle s'est jointe à l'Église, ils ont commencé à s'intégrer dans l'Église, tout ça, puis ils ont commencé à s'impliquer, si bien qu'aujourd'hui, ils sont dans l'œuvre. Le gars est pasteur d'une de nos églises, dans l'association, l'Église baptiste. Alors, gloire à Dieu, hein? Gloire à Dieu quand ça arrive, ça, lorsqu'on voit Dieu à l'œuvre et garde des gens. Et vous savez quoi? On a commencé une classe la semaine dernière pour les nouveaux, le maître et son disciple. Et une des choses, une des leçons qu'on a apprises, c'est la première leçon, là. L'assurance du salut. Une personne qui ouvre vraiment son cœur au Seigneur, qui se convertit vraiment à Jésus-Christ, ne s'appartient plus, mais appartient à Christ. Et là, vous savez, c'est comme le verset qu'on a lu dans la classe, Jean 10, 28, qui dit ceci, « Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Et le verset après dit, « Personne ne les ravira de la main de mon Père non plus. » Alors, nous sommes dans la même main qui tient et contrôle l'univers. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu es dans sa main. Alors, si tu as la vie éternelle, si tu es un enfant de Dieu, tu perdras jamais la vie éternelle. Jamais. On ne peut pas perdre notre salut. Mais tristement, il y a d'autres situations, des gens, parfois, qu'on a aimé, qui se sont joints à l'Église et qui, pour une raison qu'on ignore, quittent l'Église et on ne les revoit jamais. Et ça, c'est plus triste. Et on prie pour eux que Dieu puisse toucher leur cœur et on se pose la question des fois. Des gens que l'on affectionne, que l'on aime beaucoup. Je connais un de mes amis comme ça dans cette situation-là. Comment expliquer ces gens-là à qui tu présentes l'Évangile et parfois font un bout de chemin, s'intègrent et tout ça, reçoivent l'Évangile, c'est évident qu'on voit un peu de fruits dans leur vie, des changements, des beaux changements qui se passent, et tout d'un coup, se tournent et quittent. Eh bien, la Bible, on va voir un passage ce matin dans Matthieu 13, où Jésus parle à ses disciples et parle justement de cette question-là. En fait, Jésus est en train de préparer ses disciples à ce qu'ils soient prêts, parce que ça va arriver... que tu vas présenter l'Évangile à certaines personnes. Et quoique certaines personnes sont dures, veulent rien savoir, d'autres vont avoir un peu de fruits dans leur vie. Et un bout de chemin, après ça, ils quittent. Et c'est dur à comprendre, mais Jésus veut parler de cette question-là, et il parle de cette question-là dans Matthieu 13. Juste avant, laissez-moi vous expliquer un peu ce qui se passe dans le chapitre 13. Nous allons voir ce matin 23 premiers versets du chapitre 13. Et en passant, je vois Nathalie à l'arrière avec des Bibles à la main. Si jamais vous voulez suivre avec nous et vous n'avez pas de Bible avec vous, Nathalie va se faire un plaisir. Vous avez juste à lever la main et puis Nathalie va aller vous porter une Bible à la page de Matthieu 13, s'il te plaît, pour aider des fois des gens un peu moins habitués. D'accord? Alors, voici ce qui se passe. Dans Matthieu 13, nous allons nous concentrer ce matin sur les 23 premiers versets de Matthieu 13. Et Matthieu 13, versets 1 à 23, c'est un endroit où Jésus va donner une parabole, une histoire à la foule. De fait, les 23 versets se divisent en trois sections, mais sont tous regroupés ensemble. C'est le même thème, le même passage. Alors, les versets 1 à 9, c'est Jésus qui donne à la foule. Jésus s'installe dans une barque sur le bord de l'eau. La foule est là tout près et il parle à la foule et il raconte une parabole qu'on pourrait appeler la parabole du semeur. Les versets 1 à 9. Ensuite, les versets 10 à 17, les disciples vont voir Jésus et ne comprennent pas pourquoi il parle en parabole. Alors, ils vont voir Jésus-Christ sur le bord de la barque et lui demandent, « Mais pourquoi tu parles en parabole? » Et Jésus va commencer à expliquer aux disciples la raison pour laquelle il parle en parabole. Et ensuite, il va continuer une discussion avec les disciples, et ça se situe au verset 18 jusqu'au verset 23. Donc, trois sections, 1 à 9, il parle à la foule, donne la parabole. 10 à 17, il explique aux disciples pourquoi il parle en parabole. Et les versets 18 à 23, Jésus explique la parabole qu'il vient de donner dans les 9 premiers versets. D'accord? Aux disciples. Il parle à la foule au début, ensuite il concentre toute sa conversation, le reste du passage, aux disciples. Donc, on tombe dans la première section qu'on aimerait lire ensemble, dans juste les 9 premiers versets, où Jésus donne une parabole à la foule. Il s'installe devant la foule et, chapitre 13, verset 1, on va lire cette histoire. D'accord? Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Alors, la parabole commence au verset 1 jusqu'au verset 9, et c'est l'histoire d'un semeur. Et ça commence alors qu'il raconte à la foule cette histoire de semeur qui se promène avec sa semence, et il jette sa semence sur la terre. D'ailleurs, le verset 4 le dit bien, « Un semeur sortit pour semer, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. » Alors, le semeur lance. Le problème, ce n'est pas avec le semeur. Il lance de la semence et on voit très tôt que le problème n'est pas avec la semence non plus. Le problème, ce n'est pas le semeur ni la semence, mais le sol qui reçoit cette bonne semence. On s'entend. Donc, La première fois, ce qu'on voit, c'est que le semeur lance de la semence et c'est sur le chemin et qui était finalement le sentier. Deuxièmement, au verset 5, on voit que le semeur lance de la semence dans le sentier et ça bouge pas, ça rentre pas, ça porte pas de fruits. Ensuite, il lance la semence et qui tombe dans un endroit pierreux. Verset 5 dit « Une autre partie tombe dans les endroits pierreux ». Il n'avait pas beaucoup de terre. Il y a un peu de terre, il y a un petit peu de terre, mais pas assez profond. Elle lève, elle réagit, porte une petite affaire de fruits, mais parce qu'elle ne trouve pas un sol profond, quand le soleil arrive, ça brûle, ça sèche, il n'y a pas de racines. Alors, c'est superficiel, ça ne rentre pas, ça ne s'insère pas. Donc, la semence tombe sur le sentier, tombe dans les endroits pierreux, et troisièmement, la semence est lancée et tombe parmi les épines, verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Donc, la semence tombe sur le sentier, dans les roches, dans les épines. Les trois ont quelque chose en commun, ça ne pousse pas. Mais il y a un troisième endroit où ça bouge, c'est la bonne terre. Verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grand 100, un autre 60 et un autre 30. Alors, voici la semence qui tombe dans la bonne terre et ça produit du bon fruit. Alors là, les disciples sont là, écoutent Jésus donner cette parabole et là, ils ne comprennent pas pourquoi que tout d'un coup, Jésus commence à parler en parabole. Et là, ils ne comprennent pas, ils s'en vont voir Jésus puis ils disent, verset 10, « Les disciples s'approchèrent et lui dirent. » Et voici leur question. Voici la question des disciples. C'est important, il y a un petit mot là-dedans qui est important. Et ça dit ceci, « Pourquoi leur parles-tu? » Alors, ils font référence à la foule. « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Maintenant, les disciples comprennent qu'il se passe quelque chose à ce stade-ci de différent. Ils ne comprennent pas pourquoi, tout d'un coup, mais ils comprennent qu'il y a un changement dans les sermons ou les discours de Jésus. Il y a quelque chose qui change à partir du chapitre 13 qu'il n'y avait pas au chapitre 12 et les chapitres précédents. Alors, les disciples ont entendu Jésus parler très souvent, mais là, tout d'un coup, ils ne comprennent pas ce qui se passe parce que Jésus ne parle plus ouvertement à la foule, mais il parle à travers des paraboles. Et les disciples comprennent ça, mais ne comprennent pas pourquoi il fait ça. D'ailleurs, c'est la première fois dans le livre de Matthieu que le mot « parabole » apparaît. C'est effectivement quelque chose qui arrive au chapitre 13 et qui n'arrivait pas avant. C'est la première fois qu'on va voir le mot apparaître dans le livre de Matthieu. Et non seulement ça, un autre fait intéressant, une autre observation, non seulement c'est la première fois qu'on le voit dans le chapitre, dans le livre de Matthieu, ça va être au chapitre 13, mais en plus, dans le chapitre 13, le mot parabole va revenir plus de 12 fois, alors qu'il ne reviendra pas plus que 5 fois dans le reste du livre. En d'autres mots, sur 17 fois que le mot parabole va apparaître dans ce grand livre de Matthieu, plusieurs chapitres, 12 sur les 17 fois que le mot parabole va apparaître, il apparaît ici dans ce chapitre 13. Très intéressant et ça nous dit quelque chose sur ce qui se passe ici. Matthieu nous aide à comprendre un petit peu, il va faire le lien, donne juste une petite, va faire un point, va nous donner... va nous pointer du doigt sur ce qui se passe dans Matthieu 13, 1. Juste un petit détail que nous, on prendrait ça anodin, on prendrait ça comme si c'était une description chronologique des événements. Matthieu commence et dit « ce même jour ». Maintenant, croyez-moi, Matthieu ne se soucie pas ici de l'itinéraire de Jésus. Il n'est pas en train de faire un horaire chronologique nécessairement des événements de Jésus. Ce qu'il est en train de faire, Matthieu nous aide à voir et à comprendre ce qui se passe. C'est que, voyez-vous, ce même jour, et qu'est-ce qui s'est passé ce même jour? Eh bien, on vient de passer à travers le chapitre 12, qui est le chapitre le plus sombre du livre de Matthieu. Un des chapitres les plus sombres, parce que c'est vraiment dans le chapitre 12 que les chefs, l'élite religieuse, les chefs religieux, les pharisiens, les scribes, tranchent la question de Jésus. Ils vont se mouiller, c'est à partir du chapitre 12 qu'ils rejettent officiellement Jésus-Christ comme sauveur et comme Messie, tant prophétisé dans l'Ancien Testament. Plus de 300 quelques prophéties dans l'Ancien Testament préannonçaient la venue de Jésus-Christ. Et eux autres, ce sont les experts de la loi, les experts de la Bible, passent des heures et des heures à méditer et à étudier la Bible, mais voilà qu'ils refusent et rejettent Jésus-Christ au chapitre 12. Non seulement ça, ils font même un pas plus loin, plus agressif, alors que c'est au chapitre 12 qu'on découvre qu'ils vont même concocter un moyen maintenant, en se servant des politiciens, des fonctionnaires au gouvernement, les Hérodiens, pour les prendre et établir un plan d'action pour faire mourir Jésus-Christ. C'est au chapitre 12 que ça se passe. Et non seulement ça, c'est au chapitre 12 que les pharisiens vont même blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils vont même attribuer au diable les miracles que Jésus faisait avec la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Ils blasphèment contre le Saint-Esprit au chapitre 12. Ils vont jusque-là et c'est là qu'ils planifient de faire tuer le Messie. Jésus-Christ. Donc, c'est tranchant, c'est au chapitre 12, et c'est la raison pour laquelle je vous disais que c'est le chapitre, un des chapitres les plus sombres du livre de Matthieu, parce que c'est vraiment le rejet d'Israël, c'est là que ça commence, c'est là que ça se passe, au chapitre 12. Alors, Jésus va commencer à parler en parabole et rend plus difficile l'accès à la parole de Dieu. Parce que, voyez-vous, en parabole, c'est un peu plus dilué, c'est moins clair. Et Jésus veut inciter donc la foule à, si vous êtes vraiment sérieux à connaître la révélation de Dieu, il va falloir venir et poser des questions et pousser plus loin. Alors, déjà là, au chapitre 13, Jésus commence à parler en parabole et Matthieu nous aide à comprendre ce qui se passe. Et surtout, Jésus lui-même va citer une prophétie de l'Ancien Testament pour expliquer la raison pour laquelle il commence à parler en parabole. Jésus explique donc au verset 17, la raison pour laquelle il parle en parabole. Et à la lumière de ce qu'on vient de voir, du chapitre 12, où il vient d'avoir ce rejet de Jésus-Christ, lisons maintenant l'explication de Jésus. Vous allez voir, ce sera plus facile à comprendre ce qui se passe. Et on prend la lecture au verset 11, et Jésus explique pourquoi que maintenant il parle en parabole. Verset 11, Jésus leur répondit, alors il répondit aux disciples qui viennent de poser la question, alors, parce qu'il vous a été donné à vous autres, les disciples, de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, en d'autres mots, celui qui est ouvert à Jésus-Christ, on va donner encore plus, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. En d'autres mots, moi je suis là. Ça fait des centaines d'années et des centaines de prédictions, et je les réalise tous, et ils ne veulent pas encore croire. Ils voient, ils viennent faire une tonne de miracles, un paquet de guérisons miraculeuses, et ils voient, mais ne voient pas. Alors, vous voyez l'idée, là? Ils voient, mais ne voient pas. Ils ne veulent pas voir. Alors, c'est pourquoi je parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 6, vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais verset 16, et j'espère que vous êtes dans le groupe du verset 16, mais heureux, heureux sont vos yeux, il parle aux disciples, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes dans l'Ancien Testament ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Bien oui, Dieu parlait à travers les prophètes de l'Ancien Testament, il prédisait la venue de ce Messie. Ces prophètes écrivaient sous l'onction et l'inspiration du Saint-Esprit des détails sur le Messie qui était à venir un jour, peut-être même des centaines d'années plus tard. Et ils n'ont pas vu le Messie. Combien ils auraient aimé voir le Messie, vrai? Et ces hommes de Dieu, ces prophètes de l'Ancien Testament, n'ont pas eu le privilège de voir ce que les disciples voyaient, et même de voir ce que nous, nous voyons. Nous, nous avons l'Esprit Saint en nous. Nous avons été gâtés comme enfants de Dieu. Nous avons tout le Nouveau Testament avec nous. L'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas toute cette révélation, cette riche révélation que nous, nous avons. Nous sommes heureux, dit Jésus. Nous sommes un groupe heureux parce que nous avons tout un privilège de vraiment connaître Dieu. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Heureux, vous autres là, qui entendez. Jésus explique la raison pour laquelle il parle maintenant en parabole en leur donnant deux réponses. Dieu donne abondamment sa révélation, sa parole, qu'à ceux qui croient en lui, en Jésus-Christ. Le critère ici et la question, c'est quelle est ton attitude face à Jésus-Christ? Tout est là. Où te trouves-tu parmi les quatre sols qu'on va regarder? Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Tout se passe là. Que fais-tu de Jésus? Est-il ton sauveur? Est-il ton Messie? As-tu demandé à Jésus de venir dans ta vie? Si oui, alors toutes les portes de la parole de Dieu, de la révélation de Dieu, te sont ouvertes. Dieu va te donner l'abondance de sa révélation et de sa parole. Si tu ouvres ton cœur au Seigneur, évidemment. Voyez-vous, La Bible pointe vers Christ, toute la Bible. Ce livre a été écrit dans un écart de temps de 1600 années par 45 auteurs avec des arrière-plans différents. Et du début jusqu'à la fin de la Bible, ça pointe vers une personne, vers Christ, vers Jésus-Christ. D'ailleurs, Éphésiens 1:10 le dit, « Dieu a voulu réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Alors, l'attitude que nous avons à l'endroit de Jésus-Christ fait toute la différence. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné sa parole, pour que les gens se tournent vers Jésus. 1 Jean 2, 22 dit ceci, « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, est le Sauveur? » Dieu traite celui qui rejette Jésus de menteur. C'est Dieu qui dit ça. Moi, je dis toujours aux gens, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, là, moi, téléphonez le ciel. Pas moi qui écris ça, là. Obstinez-vous pas avec moi, moi, je fais juste lire le passage. Dieu dit ceci, qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Sauveur, le seul Sauveur. D'ailleurs, ça va plus loin, Dieu dit ceci, celui-là est même l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Il y a des gens aujourd'hui, en 2008, qui disent, hein, « Ah, moi, je ne crois pas en Jésus, mais je crois en Dieu. » Non, 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 Jésus est en train de dire, « Tu n'as pas Dieu. Tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le Père, tu n'as pas Dieu, tu n'as pas le Créateur. » La Bible est claire, elle est tranchante là-dessus. « Mais quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. » 1 Jean 3:1 dit, « Voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Voyez-vous, la personne qui se tourne vers Christ, vers Jésus, devient un enfant de Dieu. Il est adopté par Dieu. Et quel amour! Et nous le sommes. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Alors, celui qui met sa foi en Jésus-Christ est dans l'abondance. On ne parle pas du portefeuille. Ici, on parle d'une abondance qui est beaucoup plus importante. C'est de savoir où tu t'en vas lorsque tu vas mourir. C'est de savoir qu'il y a une éternité après ça. Je me rappelle, dernièrement, j'étais assis avec ma coiffeuse. Moi, ma coiffeuse, j'appelle la coiffeuse, mais bon, elle travaille chez Walmart. Moi, je me fais couper les cheveux chez Walmart. Juste, tu tasses les chandails, les T-shirts, tu me fais couper les cheveux. Et puis, je suis allé là l'autre jour, puis je suis en train de parler à la coiffeuse, une charmante fille, gentille. Et je lui parlais, je lui disais, réalises-tu, je parlais d'Évangile et tout ça, je lui dis, réalises-tu qu'il y a une éternité qui s'en vient, là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu t'en vas où? Elle dit, je ne sais pas. Elle ne savait vraiment pas. Si tu meurs à soir, tu es où demain? Il me semble que c'est important, c'est long, là. L'éternité, c'est très long, hein? Et tu t'en vas où? Et honnêtement, elle ne savait pas. Elle était très honnête, très humble. Et on a pu échanger tout ça. Puis je vais aller lui porter le livre de Tony Anthony. Elle est une Chinoise et adoptée. Et elle s'identifie un petit peu avec l'histoire de Tony Anthony, cet homme qui a été 3 fois champion du monde de Kung Fu. Un homme qui a toute une enfance difficile et qui un jour, alors qu'il était en prison, il avait travaillé dans la PEG et tout ça, faire de la collection. Hein. Et un jour, lorsqu'un homme est allé lui parler de Jésus-Christ en prison, tranquillement, a ouvert son cœur au Seigneur, puis a été un homme changé. Il fait le tour du monde aujourd'hui. Le tour du monde est parler de sa foi. C'est cette abondance-là qu'on parle, d'avoir la vie éternelle dans notre cœur, de connaître Dieu personnellement, d'être son enfant, être adopté, d'avoir cette assurance que si on meurt, demain matin, on se retrouve dans sa présence. D'avoir le Saint-Esprit en nous, d'avoir les fruits que Dieu fait porter en nous quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'abondance de Dieu. Comme enfant de Dieu, nous sommes riches dans ce sens. Nous avons la richesse de connaître Dieu. C'est la plus grande richesse qu'il n'y a pas. Dieu, notre Père, avoir la vie éternelle, avoir le Saint-Esprit qui habite en nous. Mais si tu refuses Jésus-Christ, et c'est l'autre volet des Écritures, si tu refuses Jésus-Christ, c'est la faillite spirituelle, la mort spirituelle, nous dit Romains 6. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est là que ça se trouve. Donc, si tu rejettes le Christ, si tu rejettes Jésus-Christ, il y a une faillite, il y a un échec, là. Peut-être que tu vas Tu vas réussir dans la vie, mais tu n'auras pas une vie réussie. Une vie réussie, c'est la personne qui se tourne vers Christ et a la vie éternelle. Tu perds ce qui est le plus important dans la vie, de connaître ton Sauveur, connaître Dieu. Et il y a ce volet-là dans les Écritures aussi, cet élément de jugement dont parle le Nouveau Testament. Vous savez, juste dans le livre de Matthieu, nous avons regardé ce matin un bloc, les versets 1 à 23, ça qu'on est en train de regarder, ça c'est un bloc dans le livre de Matthieu. Il y a 148 blocs comme ça, au passage comme ça, dans le livre de Matthieu. Sur 148 blocs dans le livre de Matthieu, 60 blocs dans le livre de Matthieu concernent le jugement à venir. Imaginez, ça c'est 41% du livre de Matthieu concerne le jugement. Donc ça, c'est un autre volet du livre de Matthieu qui est là. C'est là. Et ce jugement commence déjà au 13e chapitre avec la foule, alors que Jésus commence à fermer un peu la fenêtre de sa révélation. Parce que jusqu'ici, dans les 12 premiers chapitres, Jésus parlait ouvertement à la foule. Et tout d'un coup, au chapitre 13, la porte se ferme un peu. Et Jésus est en train de parler en parabole où c'est encore un petit peu plus difficile de percevoir les leçons spirituelles qu'il est en train de transmettre, la révélation de Dieu. Et Jésus parle maintenant en parabole. Et la parabole en soi, c'est ce qu'il est en train de dire, Jésus, en citant Ésaïe, est une forme de jugement qui commence. Et ça commence déjà au chapitre 13. Mais pour ceux qui croient en Jésus-Christ, et c'est ça que Jésus dit à ses disciples, mais vous qui croyez, pour les enfants de Dieu, pour ceux qui se tournent vers Jésus-Christ, c'est l'abondance. C'est cette richesse spirituelle, ce bonheur de connaître Dieu personnellement. N'est-il pas remarquable que Jésus, lorsqu'il a commencé son premier sermon, qu'on appelle le sermon sur la montagne, il a dit plus de 10 fois « heureux ». Heureux les humbles, heureux, et il n'arrête pas de parler du bonheur. Même ceux qui passent par des temps difficiles, Jésus dit, même lorsque vous allez être outragés et que ce serait difficile dans votre vie, même là, vous serez heureux de savoir qu'il y a des récompenses immenses qui vous attendent au ciel. Et Jésus commence son discours, le premier discours qu'il a livré, en parlant plus de 10 fois du bonheur pour ceux qui viennent à Jésus-Christ. C'est là le bonheur. Alors, si tu es un enfant de Dieu, je veux t'annoncer ce matin que tu es heureux. Savais-tu? Tu es heureux. Es-tu d'accord avec ça? Oui. Je ne parle pas comme quelqu'un bien heureux, là. Tu es heureux. Dieu dit, mon enfant, tu es heureux. C'est Dieu qui le dit. Est-ce que ça paraît que tu es heureux à la maison? Quand les enfants te regardent, là, papa est tellement heureux. Incroyable, c'est un chrétien, il est tellement heureux chez nous. Est-ce que ça paraît? Est-ce que ça paraît, maman, que tu es un enfant de Dieu et que tu es heureuse? Ça devrait avoir un impact. Ça va paraître. Ça, des fruits. On n'est pas parfait. Mais c'est ça qui est magnifique, de savoir qu'on va grandir continuellement. Ma femme est très heureuse de savoir que je vais changer. Ben oui, je suis un enfant de Dieu. Dieu opère des changements en moi. Ma femme est tellement heureuse de savoir que je devrais être meilleur dans 5 ans que je suis là. Ma femme est comblée. Ah, mais mon ami, ça va aller de mieux en mieux. Ça ne peut pas ne pas aller. Vrai? D'accord, les gars? Est-ce que je suis seul? Mais est-ce que c'est pas encourageant de savoir ça? Est-ce que c'est pas encourageant de savoir que même en dépit de mes failles, de mes imperfections, Dieu est à l'œuvre dans ma vie et est en train de me changer? Hein? T'es en train de changer ma femme. T'es en train de changer mes enfants. Hey, mes enfants, ceux que vous aviez connus dans le temps qu'ils étaient adolescents. Là. Aïe, aïe, aïe! Ah, mon Dieu! Hey, mes cheveux gris ont commencé là, là. Ah! C'est incroyable, là! Tu regardes aujourd'hui, mon Dieu, je ne connais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est à l'œuvre. C'est encourageant de savoir ça. C'est merveilleux, hein? Alors, gardez courage, bien-aimés. Gardez courage. On est heureux, puis c'est pour ça qu'on veut dire à tout le monde, hein? On veut parler de l'Évangile à tout le monde. C'est vrai? On veut dire à tout le monde qu'on est heureux, puis qu'il y a moyen d'être heureux aujourd'hui, même avec toutes les actions qui descendent, tout ce qui se passe dans les gouvernements et tout ça, les déceptions. Il y a moyen d'être heureux aujourd'hui lorsque tu viens au Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu crois en Jésus-Christ, ça va paraître dans notre vie. Il va y avoir du fruit, ça va paraître. Et c'est justement ce que le Seigneur est en train de dire, là, avec l'explication de la parole qui s'en vient, de la parabole qui s'en vient. C'est exactement lorsque tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ et que tu deviens un enfant de Dieu, ça va paraître. Il va y avoir du fruit. Alors, Jésus raconte la parabole, verset 1 à 9. Il explique pourquoi il donne la parabole, verset 10 à 17. Maintenant, verset 18, il donne l'explication. Jésus explique la parabole du semeur aux disciples et ça commence, et verset 18, il dit ceci. « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. » Vois-tu, le cœur, c'est la terre. Le problème, c'est pas que la semence. Le problème n'est pas que le semeur. Le problème, c'est pas avec Jésus-Christ. Si, le semeur, c'est Jésus-Christ qui présente l'Évangile aux pharisiens, à la foule, à plusieurs personnes. Des gens se convertissent, d'autres ne se convertissent pas. Là, c'est Jésus. Aujourd'hui, c'est nous autres, les semeurs. On sort dehors, on parle de Jésus-Christ, c'est nous autres. Le problème n'est pas avec celui qui donne la semence. Il n'y a pas de technique spéciale pour le semeur. C'est bon de prendre un cours, comment évangéliser, comment présenter Jésus-Christ, tout ça. Mais c'est pas mal simple, lancer la semence. Hein? Est-ce que tu peux la lancer de même, tu peux la lancer de même, tu peux la lancer de même, tu peux la lancer de même. C'est pas mal, tu sais, je veux dire, à quelque part, ça tombe tout à terre. Tu sais, c'est pas tellement une technique bien compliquée. Tu n'as pas besoin d'un doctorat pour parler de Jésus-Christ. C'est relativement simple. Le problème n'est pas avec le semeur. Et le problème n'est pas avec la semence. Des gens de dehors disent, « Ah, moi, j'ai des doutes sur la semence. » Parce que la semence, ici, ce qu'on voit dans ce passage-là, c'est la parole de Dieu. Il y a des gens à l'extérieur qui n'arrivent pas de critiquer la parole de Dieu. Ah, moi, je ne crois pas parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole, moi, j'ai des doutes. Non, le problème n'est pas la parole. Donne-toi la peine d'étudier la parole et va dire en affaire, tes genoux vont tranquillement plier. Il y a quelque chose qui se passe si tu es assez humble pour te donner le temps de lire les Écritures saintes. Tu t'aperçois là-dedans, ça, c'est un livre. L'auteur de ce livre est divin. Amen. Tu vas t'en rendre compte. Le problème n'est pas que la semeur, le problème n'est pas que la semence. Le problème est où? Ton cœur. Comment tu vas recevoir la semence qui est donnée par un semeur? Aujourd'hui, ça peut être Johnny qui est le semeur. Ça peut être Fred qui est le semeur. Ça peut être Nicole qui est le semeur. Hélène! Le problème n'est pas avec la semeur, le problème n'est pas que la semence. Tout se joue dans la façon que tu reçois la parole de Dieu. Et il y a quatre genres de personnes, quatre attitudes. Et tu te trouves dans l'une de ces quatre officielles. D'accord? Un, le long du chemin. La semence tombe le long du chemin. Premier, lance la semence, ça tombe le long du chemin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque de l'Antiquité, il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de clôture qui séparait les terres. Donc, les terres, c'était comme toutes allongées. Et qu'est-ce qui séparait les terres? C'était des sentiers, des chemins de traverse, par exemple. C'est là que tu avais à peu près 3 pieds de large, et ça, c'était le long du chemin, et c'est là que tu passais pour te rendre à la terre. Non seulement ça, les voyageurs qui voulaient passer d'un territoire à un autre passaient par ces chemins de traverse. C'était des chemins. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu passes toujours sur le même chemin? Qu'est-ce qui arrive? Tu es dans la forêt, une forêt vierge, puis il y a tout un paquet de touristes qui passent toujours sur le même chemin. Qu'est-ce qui arrive? Ça s'aplatit, puis ça devient dur. Dur comme la roche. C'est de la terre, mais c'est dur comme la roche. Fermé. Alors, tu lances la semence. Il y a certaines personnes qui sont comme ça. Tu présentes l'Évangile. Ils sont fermés, durs. Je pense que les pharisiens se trouvent dans la première catégorie, qui était le chemin, dans le fond, pour se rendre, soi-disant, à Dieu. Mais finalement, ils ne sont jamais rendus. Les gens ne pouvaient pas se rendre à Dieu à travers l'attitude des pharisiens. Voyez-vous, les pharisiens avaient le cœur dur. Très, très dur. Tu lances, et ce qui arrive, c'est que Jésus est en train de dire, c'est que les oiseaux viennent, prennent la semence et s'envolent avec. Et ça, c'est le diable, nous dit Jésus. Le diable qui vient. Si tu as un cœur dur, fermé, lorsqu'on te présente à l'Évangile, la parole qu'on te donne, la semence qu'on te présente, tranquillement, parce que tu es dur, tu refuses, tu refuses, tu refuses, le diable vient enlever le peu de semence que tu as. Ça, c'est la première terre, premier sol. On a des gens comme ça aujourd'hui. Deuxième sol, c'est l'endroit pierreux. C'est la personne qui abandonne le Seigneur après qu'il survient des difficultés. Finalement, elle ne s'est jamais vraiment convertie à Jésus-Christ. Ce n'est pas une personne qui est née de nouveau. Elle n'a pas passé vraiment par la conversion. Mais c'est une personne qui, sur le coup, trouve ça intéressant. Verset 20 et 21, il dit ceci. « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. » Ça, c'est les émotionnels. Moi, je les aime, ceux-là. J'aimerais juste que ça reste. Ça reste pas. Tu présentes l'Évangile à quelqu'un, puis « Ah, oh, wow! Hey, moi, ça fait des années que j'attends de connaître ça. » Hein? Ah, et là, tu étais là, puis tu dis « Mon Dieu, c'est fantastique, c'est une conversion instantanée, c'est bref. Ah, oh, c'est-tu merveilleux? » Mais la personne est excitée juste pour un temps, c'est émotionnel, c'est superficiel, il n'y a pas de profondeur. Ne laisse pas la racine de la parole de Dieu prendre possession de sa vie, influencer, affecter sa vie pour le bien. Alors, au début, c'est la joie, verset 21, mais il n'a pas de racine en lui-même, c'est très petit. Vous savez, tu mets de la semence, puis il y a ça de terre, à peu près un pouce ou deux, puis tu sais, au Moyen-Orient, le soleil frappe fort, et là, tu es là, t'as la semence rentre un petit peu, pousse un petit peu, mais là, le soleil est tellement fort là, que c'est sèche, il n'y a pas d'humidité, l'eau ne reste pas, il y a des pierres, ça s'en va, puis tout ça, fait que finalement, ça pousse un petit peu, puis ça meurt là, brûlé par le soleil. Pas de résistance. Alors, il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. C'est arrivé très souvent dans le Nouveau Testament. Lorsque tu acceptais le Seigneur, tu étais même persécuté. Alors, plusieurs ont abandonné, sont retournés de bord, mais ont dit, on ne veut rien savoir. Moi, je ne pensais pas que c'était ça. Quand je suis venu au Seigneur, moi, je pensais que je serais le gars le plus heureux. Je pensais que je serais riche, je serais en santé. Je pensais, moi, qu'il n'y en aurait plus de problème, parce que quand tu viens au Seigneur, tu n'es plus supposé avoir de problème. En connais-tu du monde de même? Qui sont venus au Seigneur, puis pensaient qu'en venant à Jésus-Christ, il n'y aurait plus jamais de problème dans leur vie. Non, tu as des problèmes encore. Mais on peut se tourner vers Dieu, puis le Seigneur nous aide. Troisième sol, la semence tombe parmi les épines, et ça fait référence aux personnes qui sont plus préoccupées et occupées aux choses du monde. La richesse, la séduction de la richesse, c'est pas l'idée d'avoir de l'argent ou pas d'en avoir. L'argent, en quelque sorte, c'est amoral, dans le fond. Pas rien de bien ou mal dans l'argent, c'est l'amour de l'argent. Toujours vouloir, tu sais, de donner riche, 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 riche. Moi, j'ai connu un gars qui avait acheté des milliers et des milliers de dollars de Loto-Québec. Mon ami, il avait une valise pleine. Moi, je l'ai déjà vu, là, avec une valise pleine de billets de loterie. Une valise, là. C'était plein de billets de loterie. L'idée, là, tu sais, tellement préoccupé de s'enrichir. Puis aujourd'hui, c'est un danger, hein, tomber dans le matérialisme, toujours vouloir en avoir plus, plus, toujours plus, on en veut plus. Et c'est un danger, ça, qui nous guette. Il faut faire attention à ça. La convoitise, vouloir en avoir plus. Non, ce qu'on a besoin, c'est vraiment de nous préoccuper plutôt du royaume de Dieu. Comme enfants de Dieu, même, ça nous touche de près, parce que nous aussi, on peut se laisser influencer par tous ces courants aujourd'hui du matérialisme. Et ce que nos enfants ont besoin, c'est vraiment de voir des parents préoccupés avec le royaume de Dieu. C'est sûr, on a besoin de prendre du temps avec nos enfants, jouer avec eux autres, absolument, mais en même temps, ça prend un équilibre parce que nos enfants ont besoin de nous voir occupés aux affaires du Seigneur. C'est-tu vrai? Ils ont besoin de nous voir. Moi, je me rappelle Marcel Côte-Noir. Marcel Côte-Noir, là, il était le premier rentré à l'église dimanche matin. Il y avait 5 enfants, là. Premier rentré à l'église le dimanche matin, puis le dernier à sortir dans l'après-midi. Là, il y a des gens qui disaient, bon, nous, ça n'a pas de bon sens. Regarde ça, les enfants, ils ont faim. Tout ça, tu de l'allure. Ouais, attends un peu. Il y en a qui courent après le culte de service. Ils courent, ils ont faim. Hey, on part à courir. C'est correct. Moi aussi, j'ai faim. C'est correct. Mais à quelque part, quel est le message que je suis en train de communiquer à mes enfants, là? Moi, c'est frappant de voir les enfants de Marcel Côte-Noir qui ont attendu des heures et des heures. Moi, c'est effrayant. Je me rappelle même une occasion où Marcel Côte-Noir avec sa femme Verna sont allés faire une visite à un nouveau qui venait de rentrer à l'église. Avec le plus jeune, Mark, il était tellement fatigué qu'il s'est couché sur le sofa du salon des personnes parce qu'il a emmené le jeune là-bas. Il était fatigué. Il a couché dans le salon, le jeune, pendant que Marcel et Verna étaient en train de parler au niveau de l'église, chez eux. Là, tu pourrais dire, ça n'a pas de bon sens, mais savez-vous quoi? Ces jeunes-là, les 5, sont tous très, très impliqués aujourd'hui dans les églises. Toute la gang. Andrea est en charge du ministère de la Louange à New York. David Cotenoir est à temps plein à gérer toutes les distributions des cassettes, des messages de John MacArthur à travers le Canada. Prends n'importe qui dans la famille. Ils sont tous impliqués. Hélène, c'est la femme de Terry Cuthbert qui aide tout le monde à implanter des églises, etc. Ils sont tous impliqués aujourd'hui. C'est drôle, hein? T'aurais vu ça dans le temps, puis peut-être qu'on aurait critiqué. Mais les enfants ont dit à quelque part, mon Dieu, c'est important, Dieu, pour que Papa passe autant de temps à servir le Seigneur. Il est pas mal important. Mais savez-vous quoi? Ils ont tous suivi les exemples de leurs parents. Moi, je me souviens même, Verna Cotenoir était tellement fatiguée, elle travaillait à l'école, elle était enseignante. Elle était fatiguée, elle venait à la réunion de prière le soir, puis elle était là, puis elle tombait littéralement endormie. Elle, pouf! En plein milieu de la réunion de prière, elle était fatiguée, elle était brûlée. Fait que Marcel disait, Verna? Oui? Ah, mais impliqué, là, ça faisait des visites, ça n'arrêtait pas, là. Tu regardes aujourd'hui, bon sens, hey, ça produit du fruit. Même affaire, tu regardes les missionnaires, Monsieur Héron, c'est la même affaire. Monsieur Héron, aïe, 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 ses adolescents, quand ils sont arrivés dans l'adolescence, là, c'était rough. Là. Moi, j'étais là, puis je les voyais, puis je les avais dans ma classe. T'sais. Puis c'était pas facile, là. Puis là, aujourd'hui, tu regardes les enfants, Monsieur Héron, c'est la même affaire, ils sont tous impliqués dans l'œuvre aujourd'hui. Soit dans l'œuvre ou dans l'Église. Même affaire, tu regardes les enfants missionnaires, ils ont souffert à le même voir. Il y a certains enfants missionnaires qui voyaient leurs parents seulement deux fois par année, à Pâques et à Noël. T'es là, puis tu te dis, mon ami, ça n'a pas de bon sens. Puis, savez-vous quoi? Statistiquement parlant, c'est les enfants de missionnaires qui s'en vont dans l'œuvre, continuer l'œuvre missionnaire. T'es là, puis tu te dis, ça n'a quasiment pas d'allure. Évidemment, avec ça, il faut que tu aies du plaisir avec tes enfants. Tu n'es pas toujours à l'église, puis tu veux. Non, c'est sûr, ça prend un équilibre. Moi, je me rappelle, on allait faire du ski avec nos enfants, puis on s'amusait. Le samedi, on partait, ça, puis on va, on s'amuse, tu sais. Puis c'est correct. Ça prend cet équilibre-là. Mais à quelque part, tes enfants ont besoin de te voir. C'est pas une garantie, c'est sûr. Eux autres-mêmes doivent s'approprier de la foi eux-mêmes. C'est pas parce que papa ou maman est chrétien qu'on va choisir. Écoute, ça, j'ai beaucoup de sympathie pour ça. Il y a des parents que vous êtes ici, vous les avez bien élevés, vos enfants, tout ça dans la foi, puis vous souffrez aujourd'hui de pas les voir, et je ne veux certainement pas créer de culpabilité ce matin. Il y en a, vous avez eu un témoignage impeccable, d'accord? Dieu en son temps. Dieu sait ce qu'il fait. Mes enfants ont pris un détour à un moment donné. Puis ça arrive. Et on veut prier pour eux, que Dieu vous donne cette grâce de voir vos enfants venir. Donc, je veux juste dire que c'est facile comme enfant de Dieu de se laisser emporter par le matérialisme, vous savez. Même comme enfant de Dieu. Mais ça peut même empêcher des gens de venir au Seigneur aussi. Et ça, c'est encore plus triste. Et ça, c'est le troisième sol. Heureusement, il y a la bonne terre. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grain en donne 100. Un grain en donne 100. Et ça, c'est productif, ça, mon ami. Ça, c'est rentable, hein? Vous savez que la moyenne dans ce temps-là, en Palestine, combien ça produisait? La moyenne de la récolte dans ce temps-là, c'était 7,5 grains pour un grain semé. 7,5 fruits pour un grain semé. Ça, c'était la moyenne, ça. Encore jusqu'à récemment, en Judée, c'est 2 à 5 pour un. Jésus dit, quand tu viens avec moi, là, moi, je vais te donner du fruit dans ta vie, mon ami, ça peut porter jusqu'à 100 fruits. Même à la rigueur, 30. On disait à l'époque d'Antiquité que c'était une récolte extraordinaire dans le temps de Jésus si tu en avais 10 pour 1. C'est extraordinaire. Alors Jésus dit, il est en train de te dire, même le chrétien faible à la rigueur qui porte juste 30 fruits, c'est déjà extraordinaire par rapport à ce qu'il faisait la moyenne. Vois-tu, Jésus veut faire produire du fruit dans nos vies. Quand tu viens au Seigneur, c'est le Seigneur qui, quand tu viens à Jésus-Christ, puis t'es sincère avec Dieu, et tu mets ta foi en Jésus-Christ, Dieu va faire porter du fruit. Ça, c'est merveilleux. Puis c'est tellement encourageant pour nous autres de savoir ça. Tellement encourageant. C'est encourageant parce que ça, ce que ça nous dit, et je vais terminer là-dessus, ça nous dit que allons semer. Allons semer parce qu'il y a des gens à l'extérieur qui sont de la bonne terre et vont recevoir l'Évangile, vont ouvrir leur cœur, puis vont avoir du beau fruit dans leur vie. Amen. Savez-vous ce qui est encourageant aussi? C'est qu'il y a des gens qui ont un sol assez dur. Tu présentes l'Évangile, ne veulent rien savoir de Jésus-Christ. Mais laisse-toi pas décourager. Laisse-toi pas décourager. Vous savez, Dieu a un autre tour à son sac. Vous savez quoi? Dans l'Antiquité, lorsque tu lançais de la semence et la semence était là, ça ne rentrait pas, tu avais une deuxième option. En Palestine, ce qu'on faisait, on retournait voir où était la semence. Et la semence qui avait la misère à rentrer, ce que tu faisais, tu allais labourer la terre qui se trouvait, qui était dure, qui était en dessous de la semence. Vois-tu, c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Dieu est tellement puissant que des fois, il y a des gens qui veulent absolument rien savoir de l'Évangile. Ah, ils ont le cœur dur. Arrête pas. Continue. Parle-leur de l'Évangile. Et qui sait si Dieu n'ira pas en arrière de toi, tranquillement, attendrir le cœur de cette personne qui a une apparence très dure à l'endroit de l'Évangile. C'est ce qui est arrivé dans mon cas. Moi, j'ai refusé l'Évangile la première fois. Je voulais rien savoir. Deuxième fois, même affaire. Mais Dieu a été patient avec moi. Il a préparé mon cœur, a permis qu'il se passe des choses dans ma vie pour que je puisse être très ouvert ou plus ouvert à l'Évangile. Et lorsque la troisième fois, et ça, c'est sa grâce, qui est revenue avec l'Évangile, là, mon cœur était plus attendri quand on m'a présenté l'Évangile. Et j'ai dit oui à Jésus-Christ. Sauté dessus. Je voyais bien que la vie ne pouvait pas m'offrir ce que Jésus-Christ m'a offert. Il m'offrait. En même temps, le message va aussi, évidemment, à vous. Peut-être que vous n'avez pas encore dit oui à Jésus-Christ. Où est-ce que tu te situes dans les quatre sols? J'espère que ce matin, tu vas dire oui à Jésus-Christ. Tu vas embrasser le Fils. Tu vas venir à Jésus. Puis tu vas te donner au Seigneur. Pour que ça porte beaucoup de fruits, puis que tu connaisses cette abondance dans ta vie que le Seigneur t'offre. C'est pour ça qu'on veut terminer en louange en cette occasion d'action de grâce, et remercier Dieu pour cette abondance, ce bonheur qu'il nous donne, nous les enfants de Dieu. Alors prions, Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier de tout cœur. Te remercier parce que nous voyons bien dans ce passage que tu nous as donné tout un privilège que les prophètes même attendaient depuis des centaines d'années, de te connaître, de connaître Jésus-Christ, de connaître le Sauveur, de savoir c'était qui. Les gens dans l'Ancien Testament n'avaient pas ce privilège, ne savaient pas que c'était Jésus. Et nous voulons te louer parce que nous connaissons ce Sauveur. Nous te remercions pour l'abondance que nous avons en Jésus-Christ. Nous te remercions pour le pardon des péchés que nous avons en lui. Nous te remercions pour la révélation, la parole de Dieu, la semence qui a pénétré dans nos vies, dans nos cœurs et qui a produit tant de fruits. Combien de témoignages on entend de foyers qui étaient même brisés. Je connais un couple 11 ans séparés, lui et sa femme. Lorsque les deux sont venus à Jésus-Christ, tu les as réconciliés ensemble et aujourd'hui ils sont un couple heureux. Oh Seigneur, ce que tu fais dans nos vies, on te laisse venir dans nos vies, combien tu nous changes. Merci pour la vie éternelle. Nous sommes un peuple comblé, Seigneur, tes enfants, et nous voulons propager cette bonne nouvelle partout autour. En cette fin de semaine d'Action de grâce, nous te disons merci, Seigneur, pour tout. Merci pour la nourriture que tu pourvois à nos tables. Merci, Seigneur, pour ton amour, ton affection, ton secours, pour la consolation qui se trouve en toi. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions ce matin et que nous te remercions. Grâce à lui. Amen.